Vous écoutez
RMC.
Vous écoutez
RMC. RMC, le dossier des GG.
Alors c'est l'événement dans les grandes gueules du sport ce matin, un dossier spécial dopage après l'affaire Yannick Sinner qui a beaucoup fait parler, les doutes incessants autour des performances de certains cyclistes, notamment Tadej Pogacar, c'est extrêmement rare. L'Agence mondiale antidopage prend la parole ce matin sur RMC avec Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux évidemment de vous recevoir ce matin sur RMC. Vous vous en doutez, on a beaucoup de questions à vous poser sur les affaires récentes, mais aussi savoir comment lutter efficacement contre le dopage. Depuis quelques années, la nouvelle défense des sportifs quand ils sont attrapés par la patrouille, c'est la contamination extérieure. Le professeur Jean-Claude Alvarez est également avec nous ce matin. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Directeur du service toxicologique de l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garches. Vous êtes l'homme que tous les sportifs s'arrachent. Vous tentez de prouver l'innocence des sportifs, prouver qu'il y a une contamination et non un dopage intentionnel pour lesquels les plus célèbres. Vous vous êtes occupé des tenniswoman Iga Swiatek et Simona Halep, ou encore de l'escrimeuse française récemment avant les Jeux Olympiques de Paris, Isaora Tibus. On va débuter tout de suite avec vous, chers invités et les grandes gueules du sport, ce dossier avec l'affaire la plus chaude, l'affaire Yannick Sinner. Anthony Reich, notre journaliste RMC Sport qui suit de très près cette affaire depuis le début, est avec nous. Bonjour Anthony.
Salut Jean-Christophe, bonjour à tous.
Alors,
salut
pour tous ceux qui nous écoutent, pour les auditeurs évidemment, pour remettre en contexte, l'affaire Sinner, c'est quoi? Comment ça s'est passé?
Eh bien, reprenons dès le début. En mars 2024, Sinner est contrôlé positif deux fois en 8 jours au Clostebol, un stéroïde anabolisant inscrit sur la liste des produits interdits par l'Agence mondiale antidopage. Entouré d'une armée d'avocats, l'Italien plaide tout de suite pour une contamination par le biais d'un massage de son physiothérapeute. Ce dernier avait utilisé un spray contenant 7 molécules qui permet notamment de réduire la fatigue. Le temps de l'enquête, qui reste secrète, non publique, Sinner peut continuer à jouer Roland-Garros notamment. Cette enquête conclut que le numéro 1 mondial n'a commis aucune faute ni négligence. Initialement donc blanchi par l'Agence pour l'intégrité du tennis, appelée Litia, Yannick Sinner voit l'Agence mondiale antidopage interjeter appel en septembre dernier après sa victoire à l'US Open pour réclamer une suspension d'1 à 2 ans. Finalement, le 15 février dernier, l'AMA et Yannick Sinner annoncent la conclusion d'un accord pour une suspension de 3 mois, je cite. « Nous avons accepté rapidement, même si je n'étais pas forcément d'accord », expliquera le numéro 1 mondial. L'Italien purge donc actuellement sa suspension jusqu'au 4 mai et pourra reprendre la compétition chez lui lors du Masters 1000 de Rome à partir du 7 mai.
Et Anthony, après cette suspension, beaucoup de sportifs ont réagi.
Oui, effectivement, depuis le dévoilement de l'affaire, qu'on peut appeler affaire Sinner, au cours du mois de juin 2024, beaucoup de tensions se sont créées, réactions dans la planète tennis. Tout d'abord, Nick Kyrgios, l'Australien, Lucas Pouille, le Français ou encore Stan Wawrinka estimaient notamment anormal la gestion du dossier en catimini et fustigeaient le deux poids deux mesures et deux mesures dans le tennis mondial. Depuis l'annonce de la suspension de Sinner, Serena Williams n'a pas hésité à dire qu'à la place de l'Italien, elle aurait écopé de 20 temps de suspension et peut-être se serait vue retirer quelques tournois du Grand Chelem de son palmarès. Enfin, l'ancienne championne olympique italienne de natation, Federica Pellegrini, a évoqué récemment un traitement de faveur pour Sinner. Et puis, on peut également citer Raphaël Nadal, qui a défendu l'Italien, arguant qu'il n'a jamais voulu tricher.
Merci beaucoup Anthony Reich pour toutes ces précisions. Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, on commence avec vous. Quand on expose les faits, un accord avec seulement 3 mois de suspension, il ne manque aucun gros tournoi, il revient chez lui à Rome. Est-ce que vous comprenez que cela puisse choquer le grand public et, on l'a entendu, les sportifs aussi?
Écoutez, je pense que chaque cas doit être jugé au regard des faits qui existent et également, et je pense que c'est le rôle de l'Agence mondiale antidopage, de s'assurer que les règles du Code mondial antidopage et des standards internationaux soient appliquées. Ce qui a été le cas dans cette situation pour cet athlète et la situation à laquelle il a fait face avec une réduction, si vous voulez, de la sanction normative est quelque chose qui a été appliqué précédemment dans plusieurs dizaines de cas et correspond à une disposition du Code mondial antidopage lorsque la sanction est jugée inappropriée, trop stricte, si vous voulez, au regard des faits. Donc je pense que le cas de cet athlète montre que le système fonctionne, puisque le cas a été révisé de près par deux instances. Elles sont peut-être arrivées avec des conclusions différentes, mais le rôle de l'AMA est de s'assurer que les règles du Code mondial antidopage sont appliquées, et c'est la raison de notre appel, même si au final la sanction a été ajustée au regard du mérite et des faits du cas spécifique de cet athlète.
Mais alors, professeur, pourquoi ce revirement ? Parce que dans un premier temps, vous aviez voulu être assez sévère. C'est vous qui avez décidé de présenter l'affaire devant le TAS. Vous demandiez 1 ou 2 ans de suspension. Et finalement, on se retrouve avec une sanction minime, quelque part. C'est Sinner lui-même qui vous a convaincu. On dit qu'un accord a été trouvé. Mais comment on peut trouver des accords comme ça et passer de 2 ans de suspension à quelques mois seulement ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement vous décidiez que c'était pas si grave que ça?
Non, alors si vous voulez, le jugement ou les jugements que l'AMA émet sont des jugements qui ne sont pas basés sur les émotions mais sur les faits et l'application du code au regard des faits. Et je pense que dans un premier temps, vous l'avez mentionné, l'ITIA n'avait prononcé aucune sanction, ce qui n'était pas en ligne avec les règles du code. C'est la raison dans un premier temps pour laquelle l'Agence mondiale antidopage a fait appel de ce cas. Ensuite, une fois que les éléments ont été avérés, discutés, échangés, il y a, et je reviens à ce point qui me paraît assez fondamental dans ce cas-là, une provision du Code mondial antidopage qui est très claire et qui indique que lorsque la sanction est jugée trop stricte au regard des faits et des faits avérés, il y a possibilité de réduire la sanction. Et c'est ce qui a été le cas. Maintenant, il n'y a pas eu, si vous voulez, de troc avec l'athlète lui-même. L'AMA applique les règles de façon stricte. Et comme je vous le disais, il y a eu plusieurs dizaines de cas, en fait à peu près 70 cas, où cet article du Code mondial antidopage a été appliqué. Donc le cas Sinner n'est pas un cas particulier, c'est un cas avec lequel un certain nombre de règles s'appliquent une fois que les faits sont échangés, connus et avérés.
Mais pour l'opinion publique, comprenez que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que l'ITIA dans un premier temps décide, il y a rien, il sera pas sanctionné. Vous faites appel en disant il faut le sanctionner durement, puis finalement vous arrivez à un accord. Vous comprenez que ce changement finalement de politique de la part de toutes les instances antidopage ait pu choquer l'opinion publique.
Alors, c'est pas un changement de politique, si vous voulez. C'est après la façon dont différentes instances peuvent interpréter et appliquer le Code mondial antidopage. Le choix de l'ITIA a été de déclarer qu'il n'y avait pas de faute de l'athlète. Or, le Code, dans ce cas, on peut peut-être nous reprocher d'être trop strict à ce sujet, mais le Code dit clairement qu'à partir du moment où une substance est retrouvée chez un athlète et qu'il y a négligence même de l'entourage, en tout cas, c'est comme ça que le Code mondial antidopage présente les choses. On ne peut pas invoquer un cas de no fault, d'aucune faute. D'autant que c'est l'entraîneur fitness donc, qui avait fourni la substance. Donc il y a tout un contexte aussi que l'on doit prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle il y a sanction, mais que la sanction a été réduite au regard des faits qui ont été avérés et reconnus, à la fois du côté de l'athlète et dans toutes les informations qu'on a pu regarder de près dans ce cas particulier.
Olivier Rabin, directeur science et médecine de l'Agence mondiale antidopage, est avec nous ce matin dans ce dossier spécial dans les grandes gueules du sport sur RMC. On donnera évidemment la parole au professeur Jean-Claude Alvarez dans quelques instants, puisque vous connaissez bien ces histoires de contamination. Sarah Pitkowski.
Oui, monsieur Rabin, on parle de tennis et vous venez de citer à plusieurs reprises donc l'ITIA, qui est donc en fait un organe qui fait, semble-t-il, la même chose que vous, mais uniquement dans le tennis. Et c'est là que ça devient un peu complexe, c'est-à-dire qu'on a une agence mondiale antidopage, et pourtant le tennis, c'est doté...
Et des agences nationales aussi, un peu
absolument,
partout.
Absolument. Et le tennis a voulu, ou s'est octroyé, en tout cas, s'est doté d'un organe qui, lui, prend aussi ses décisions. Mais effectivement, la difficulté, c'est que cet organe qui a aujourd'hui a été le premier à juger et a révélé donc les deux cas de contrôle positif de Yannick Sinner. Cet organe-là, au départ, il a été créé, il faut le rappeler, pour les paris truqués. C'est-à-dire un vrai fléau dans le tennis. Et puis, les années avançant, eh ben, en fait, elle s'est octroyée le droit, en tout cas, de prendre en charge les contrôles antidopage. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est: pourquoi l'AMA a-t-il cédé à l'ITIA le sujet du dopage dans le tennis ? Et pourquoi, finalement, l'AMA n'est pas le seul et unique organe qui devrait aussi réguler le sport qu'est le tennis ?
Alors, votre question est tout à fait pertinente. Je crois qu'il faut très bien comprendre la façon dont le système fonctionne. Et tout ceci, il faut quand même garder à l'esprit les règles antidopage ne sont pas des règles édictées seules par l'Agence mondiale antidopage. L'Agence mondiale antidopage a un rôle, si vous voulez, de colliger les attentes de différents acteurs du mouvement sportif ou des autorités publiques afin d'édicter des règles qui s'appliquent à tous. Il y a dans tous les systèmes juridiques, et l'antidopage n'y échappe pas, une première instance. Et la première instance ne relève pas du rôle et du mandat de l'Agence mondiale antidopage, mais relève des fédérations sportives ou des agences nationales antidopage. Ça existe également en France, avec la FLD, qui a une possibilité de jugement en première instance. Donc, même chose pour les fédérations internationales, et la Fédération internationale de tennis n'y échappe pas. Le rôle de l'Agence mondiale antidopage est un rôle un peu différent. On a un droit d'appel, de telle façon à nous assurer que les règles du Code mondial antidopage et des standards internationaux associés soient correctement appliquées. Donc quand vous prenez un peu ce recul et vous regardez la façon dont le système fonctionne, il est tout à fait normal qu'un athlète dans le tennis soit jugé en première instance par des autorités compétentes de son sport, ce qui a été le cas avec l'ITIA. Et ensuite, si la décision est considérée non conforme avec le Code mondial antidopage, le droit d'appel de l'AMA peut être exercé. C'est ce que nous avons fait dans ce cas-là. Et ça s'applique à des dizaines de cas chaque année. Donc il n'y a pas de traitement de faveur pour le tennis ou pour l'athlète en cause.
Et c'est là que vous intervenez, mais c'est vrai que le traitement de faveur, c'était peut-être que l'ITIA est caché, mais c'était son droit dans les textes de cacher pendant de nombreux mois que Yannick Sinner avait été contrôlé positif en mars, et puis finalement ouais, ça avait
c'est,
été
c'est le règlement de l'ITIA aussi qui dit que quand une suspension est provisoire et que quand le joueur prouve effectivement que sa bonne foi... Ben, en fait, l'ITIA dit, et c'est dans ses règles, dit qu'il n'a pas à communiquer, sauf si c'est le joueur qui veut le faire, n'a pas à communiquer sur ce contrôle.
Et c'est pour
positif.
Ça que là-bas, on l'a bien, très bien compris avec Olivier là-bas, Rabin, contrôle tout
exactement.
Ça, et donc
et
c'était
c'est
très
pour ça
clair.
Que tout est arrivé par moi interposé, et ce qui crée aussi une
ce
forme
qui crée
de,
le flou, c'est
de
sûr.
Flou, et oui, absolument, une injustice.
Jérôme Pinault avec Olivier Rabin.
Oui, Olivier, bonjour. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, et j'aimerais, pour éclairer un peu nos auditeurs, comprendre comment est financé l'AMA. Comment fonctionne le financement de l'AMA et quelles sont les relations de l'AMA avec les fédérations internationales ?
Alors écoutez, l'AMA a un fonctionnement budgétaire qui est très simple et très transparent. La moitié de notre budget vient du mouvement sportif international représenté par le Comité international olympique. Et l'autre moitié de notre budget vient des autorités publiques, à savoir tous les gouvernements du monde qui contribuent avec une part, selon la répartition des Nations Unies, au budget de l'Agence mondiale antidopage. Donc on s'appuie sur ces deux piliers pour le financement annuel de l'agence.
Très bien. Ce qui m'emmène sur une seconde question... On s'aperçoit et de plus en plus, et pour avoir été parfois en première ligne en tant qu'athlète mais aussi en tant que manager général sur ces fameuses agences nationales et notamment la FLD. J'ai eu ouï dire et entendu et parfois vécu l'annonce au préalable et la mise en garde au préalable avant toute sanction ou toute continuité dans une affaire ou dans un cas suspicieux. Je m'en explique plus clairement. Il se peut, il n'est pas impossible qu'une agence nationale puisse prévenir le manager, le patron d'une équipe que l'un de ses coureurs serait bien qu'il se repose ou qu'il se mette un peu au repos ou qu'il disparaisse un peu de la circulation parce que son suivi ou un contrôle n'a pas été du plus clair. Est-ce que vous êtes, vous, à la main, au courant de ce genre de pratique, de démarche parfois, ou est-ce que justement ça passe sous les radars de l'AMA avant que vous en soyez saisi?
Alors écoutez, je comprends la situation que vous décrivez, je n'ai pas d'exemple qui a été apporté à mon attention.
Moi j'en ai.
Je vous entends tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agence a une unité qu'on appelle enquête et intelligence, dont le rôle est justement de collecter ce type d'informations à partir du moment où des athlètes pourraient être prévenus ou l'entourage d'un athlète pourrait être prévenu de manquements éventuellement aux règles ou de résultats suspects. ce sont des informations qu'il n'est pas lieu de partager avec un athlète ou avec l'entourage d'un athlète. Donc si de telles pratiques aujourd'hui venaient à l'attention de l'Agence mondiale antidopage, nos collègues des enquêtes et de l'intelligence auraient certainement un rôle à jouer pour vérifier ces informations et si elles sont avérées, avoir la possibilité éventuellement de sanctions envers une organisation antidopage qui aurait de telles pratiques. On a parfois des informations qui remontent du terrain. Elles sont analysées par mes collègues qui sont des policiers ou des gens qui ont été formés dans les services secrets de telle façon à mener des enquêtes et de telle façon à révéler si ces informations sont fondées ou non. Et il y a ce qu'on appelle chaque année des violations des règles antidopage qui ne sont pas liées à des tests réalisés dans les laboratoires antidopage, mais au contraire qui sont révélés par des enquêtes.
Par des méthodes. J'ai une dernière question, si je peux me permettre, j'y sais.
Vas-y, Jérôme.
C'est sur ce que l'opinion publique et les amoureux du sport éprouvent et ressentent comme être des sanctions, un peu à double tranchant ou une grosse différence de sanctions selon le rang de l'athlète. J'en entends par, moi je vous mets deux cas qui sont à ma connaissance, celui le plus public et qu'on a le plus connu, le cas Sinner. Et moi j'ai un cas aussi qui m'a beaucoup touché, qui m'a touché personnellement, puisque j'étais son patron, le cas Bonamour. Et j'ai le sentiment, comme beaucoup de nos amis, des passionnés de sport, que la sanction n'est pas la même selon le niveau et le rang de l'athlète. Est-ce que vous êtes tout à fait opposé à ce genre d'idée? Ou est-ce que vous n'êtes pas
le
contre
deux
dire
de
qu'on
mesure.
S'adapte? Exactement. Est-ce qu'on s'adapte un peu? Parce que c'est un numéro un mondial dans un sport très puissant. C'est pas la même chose qu'un petit coureur breton dans un sport où il faudrait pas arrêter les grands, mais les petits, il faut bien que ça tombe de temps en temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, pas du tout. Permettez-moi de m'inscrire en faux avec une telle affirmation pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le Code mondial antidopage s'applique à tout le monde et ça a été la volonté il y a 25 ans maintenant d'établir un code uniforme qui s'applique dans tous les sports et dans tous les pays. Premier point, donc ça a été quand même une des grandes avancées sous le mandat de l'Agence mondiale antidopage d'avoir des règles qui s'appliquent à tout le monde dans un premier temps. Dans un deuxième temps, moi je le vois quand je révise des cas, et j'en révise quand même très régulièrement, je ne souhaite absolument pas connaître la nationalité de l'athlète ou son nom. Pour moi ça n'a rien à voir, je regarde les faits scientifiques, parce que lorsque on doit juger d'un cas et qu'ensuite ce cas peut être l'objet d'un appel au tribunal arbitral du sport, ce sont les faits scientifiques qui doivent parler. Ensuite, et c'est là peut-être que je rejoins un peu votre point, des athlètes ont des moyens financiers différents et certains peuvent s'offrir les services d'avocats et de scientifiques qui vont avoir un regard beaucoup plus pointu sur leur cas et peut-être venir avec des explications ou un angle de défense que n'aurait pas forcément un athlète moins bien financé et ayant moins la possibilité d'avoir accès à cette expertise. Là, effectivement, il peut y avoir une différence. Et encore aujourd'hui, vous avez des fédérations internationales qui permettent de mettre des dispositions pour les aider dans une démarche antidopage. Et ça existe, et l'AMA a même créé ce qu'on appelle en anglais un ombudsman, c'est-à-dire une personne qui est un médiateur, de telle façon à ce que des athlètes, y compris ceux qui n'ont aucun moyen ou très peu de moyens financiers, puissent se tourner vers ce médiateur et bénéficier d'informations et de conseils de premier ordre. Donc je pense que le procès, qui est un peu facile à mon avis, vu de l'extérieur, du deux poids deux mesures, ne se vérifie pas. Maintenant, dans les moyens qui sont mis à la disposition d'athlètes pour se défendre, effectivement, il peut y avoir une certaine disparité.
Le deux poids deux mesures, on continue d'en parler car vous n'êtes pas d'accord, professeur Alvarez. Vous allez avoir la parole et on poursuit la discussion sur Yannick Sinner. A tout de suite sur RMC.
Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h27 de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC avec les GG, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, toujours au cœur de notre dossier spécial dopage avec nos deux invités, Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie de l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garches. On poursuit la discussion. Jean-Claude Alvarez, vous vouliez répondre à l'AMA et Olivier Rabin.
Oui, alors moi, si j'interviens sur tout ce qui a été dit depuis le début, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais revenir. Le deux poids et deux mesures, si, ça existe. Je suis désolé. Moi, j'ai quand même plein de cas où j'ai deux poids et deux mesures en fonction des cas. IGAS Viatech, c'est moi qui m'en suis occupé. Elle prend un mois. Elle aurait dû prendre zéro parce qu'on a clairement montré que c'était de la contamination. Je vois pas pourquoi on lui met un mois. Dans la tête des gens, un mois, ça veut dire qu'elle était dopée. C'est très clair. Donc, quand on prouve que c'est de la contamination, l'AMA va devoir accepter que c'est de la contamination et qu'on ne met pas de sanctions. Cette règle, on est responsable de tout ce qui rentre dans son organisme. Aujourd'hui, il faut arrêter. Je veux dire, c'est plus possible. On est en 2025.
Mais on n'est pas responsable d'un médicament qu'on achète qui, lui, a potentiellement pu être contaminé.
Mais bien sûr, mais si je vous fais vos urines, là, vous allez être surpris de ce que je vais retrouver. On descend sur du picogramme par millilitre.
Surtout Sarah.
Mais oui, non, mais c'est des choses qui ne vous font rien. C'est de la contamination extérieure. Il faut l'admettre. Point. Après, je reviendrai sur l'analyse des cheveux. Ça aussi, c'est quelque chose que l'AMA va devoir accepter. Pour nos, ceux qui nous écoutent, si vous voulez, quand vous prenez un produit, ça reste quelques heures dans le sang, quelques jours dans les urines, et ensuite ça s'efface. C'est terminé, il n'y a plus de traces. Dans les cheveux, tout ce que vous prenez va s'accumuler, ça s'accumule. Donc si vous faites du dopage, vous en prenez tous les jours, et tous les jours ça s'accumule. Et vous en avez des concentrations énormes dans les cheveux. Et donc les cheveux, on va faire centimètre par centimètre, c'est mois par mois. Un centimètre, c'est un mois. Donc je peux vous dire, tout ce que vous avez pris, vous avez des cheveux de 10 cm dans les 10 mois qui précèdent.
Ah, c'est pour ça que Jérôme Pinault s'est rasé la tête.
Revenir sur évidemment vos deux techniques différentes avec la maille et avec les cheveux, mais je vous laisse poursuivre.
Je voudrais juste terminer. Donc, IGAS Viatech, on négocie avec l'ITIA directement, ça n'a pas été publié, hein, ça a été directement négocié avec l'ITIA, donc un mois de sanction, et puis voilà, l'AMA ne fait pas appel. Très bien, je trouve ça très bien. Simona Alep, même chose, je m'en occupe, on trouve son roxadustat dans son produit, dans son collagène. Derrière, 18 mois de procédure. On a été à l'ITIA qui a voulu la sanctionner parce que derrière, on a rajouté le passeport. Parce que le roxadustat, ça modifie le passeport. Donc, ils se sont dit, peut-être que le roxadustat, ça va pas suffire.
Oui, parce qu'il faut expliquer que ce passeport biologique, c'est son... Enfin, il y a soit les preuves directes, on a un contrôle positif.
C'est ça.
Et aujourd'hui, les sportifs aujourd'hui ont un passeport biologique qui sont des preuves...
Ou pas. Parce que le passeport biologique, on peut lui faire dire aussi beaucoup de choses.
Mais oui, c'est pour ça qu'il
peut y avoir
deux...
de vraies variations sur absolument. La durée. Une personne qui ne prend absolument rien. Et c'est le cas de Franck Bonamour notamment.
On est d'accord avec ça. Moi, j'ai deux cas en ce moment que je suis en train de traiter, je pourrais pas en parler, sur lesquels je suis sûr. J'ai fait de la génétique. Il y a des mutations génétiques qui expliquent les fluctuations. Donc le passeport, à prendre avec des pincettes. J'ai d'ailleurs publié le cas Simona Alep. Hein. Allez voir dans la littérature. J'ai montré. Simona, elle a des mutations. Des mutations de ces gènes, de certains gènes qui modifient en fait qui modifient votre fer et qui donc peuvent expliquer les fluctuations qu'elle avait. Donc on s'est acharné contre elle, on a rajouté son passeport. Le passeport, il y avait une alarme sur la température du transport de ce tube. C'est-à-dire que ce tube, il aurait dû aller à la poubelle. Et on s'est acharné pour faire croire que le roxadustat qu'on avait trouvé dans son supplément avait modifié son passeport. 18 mois de procédure. Elle prend 4 ans par l'ITIA, première instance. On fait appel, on va au TAS. Et finalement, ils reconnaissent que rien. Elle prend quand même 9 mois. Je ne comprends pas pourquoi.
L'AMA n'est pas intervenue dans le cas de Simona Alep.
Non, c'est nous.
C'est l'ITIA et le tribunal arbitral du sport. L'AMA ne s'est pas
absolument,
ingéré, ou en tout cas n'a pas voulu faire appel.
Mais l'AMA aurait pu s'emparer du sujet.
Alors, autre cas, Isaura Tibus. Oui. On prouve, on publie tout ce qui s'est passé, c'est son copain qui a pris de l'ostarine, qui l'a contaminé. J'ai publié, j'ai refait exactement ce qui s'était passé le jour du résultat positif. Chez eux, je l'ai refait exactement, je l'ai publié. Je prouve clairement, elle a 2 picots dans ses cheveux, lui il a 65 picots. Quand on prend un traitement à l'ostarine, on est entre 50 et 200. Elle a 2 picots, c'est de la contamination, c'est sûr et certain.
Alors moi ça m'amène...
Attendez, parce que du coup... La sanction FIE, la fédération dit, ok, tout est prouvé, pas de sanction, aucune sanction. L'AMA fait appel. Mais là, il n'y a pas eu de négociation, on a été au TAS. Pourquoi ? Sineur, on négocie 3 mois, et Isaura Tibus, on fait appel, l'AMA fait appel, mais on négocie pas. On va au TAS. Pourquoi cette différence ? Donc, il y a bien 2 poids et 2 mesures, je suis désolé.
Ok, la réponse d'Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA.
Oui. S'il vous plaît, j'aimerais réagir aux commentaires du professeur Alvarez, parce qu'il y a un certain nombre de points qui, à mon avis, méritent d'être clarifiés. Tout d'abord, la responsabilité objective de l'athlète, c'est un des éléments fondateurs du Code mondial antidopage. Pourquoi ? Parce qu'il serait trop facile que des athlètes acceptent de se faire injecter ou prennent des substances sur des recommandations de leur entourage et disent « mais moi je ne suis au courant de rien, ça n'est pas de ma faute, donc il ne peut pas y avoir de sanctions ». Si je pense que le monde du sport et les autorités publiques s'accordent à dire que la responsabilité objective est un point essentiel, je pense qu'il faut le respecter et accepter, et comme de nombreux athlètes au travers du monde acceptent ce principe, de telle façon à permettre aujourd'hui aux règles antidopage de fonctionner. Alors, après, je pense qu'il faut faire très très attention. Permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. Oui. Je pense qu'il faut faire vraiment très très attention quand on parle d'un certain nombre d'analyses. Les analyses capillaires, on connaît très bien aussi, ou des analyses génétiques aussi. On travaille avec des généticiens de très haut niveau, y compris en support du passeport biologique de l'athlète. On a des gens qui sont des spécialistes des maladies sanguines, qui sont des spécialistes de la génétique des maladies sanguines et qui savent très bien de quel sujet on parle. Donc, restons quand même extrêmement prudents sur certaines interprétations de variations du passeport biologique de l'athlète. D'accord. Après, quand on parle d'analyse capillaire, les analyses capillaires, on y rentrera peut-être un peu plus dans le détail avec grand plaisir, mais les analyses capillaires ont des avantages, mais ont aussi beaucoup d'inconvénients. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, quand vous regardez quand même des spécialistes dans le domaine de l'analyse capillaire, et on travaille avec un certain nombre de ces spécialistes également, il y a quand même un certain nombre de restrictions dans les interprétations d'analyse capillaire que l'on se doit de prendre en compte si on veut avoir une rigueur scientifique suffisante pour analyser ces cas de dopage, comme nous le faisons à l'AMA et comme nous acceptons tout à fait le débat contradictoire. Et c'est pour ça qu'aussi le tribunal arbitral du sport existe, de telle façon à permettre à tous les avis de s'exprimer et ensuite d'avoir un jugement neutre et objectif sur ces cas, quelles qu'en soient les preuves scientifiques et médicales apportées.
Monsieur Rabin, quels sont vos spécialistes du cheveu à l'AMA ?
Ben, écoutez, on a un certain nombre de laboratoires antidopage qui
donnez-moi des noms,
des
s'il vous plaît.
Activités également de médecine légale. Je vous recommanderai une lecture d'un livre que j'ai coédité.
Je le connais.
Avec le professeur Detlef Thieme, par exemple.
Tout à fait.
Qui fait une très bonne analyse des points forts et des limites aussi des analyses capillaires. Nous travaillons toujours avec le professeur Thiemeux, au même titre que nous travaillons d'autres experts dans le domaine capillaire. Et j'aimerais insister sur un point. Les analyses capillaires ne sont pas rejetées par le système antidopage. Vous le savez très bien, le standard international des laboratoires dit clairement que les analyses capillaires peuvent être une source d'information utile, mais ne peuvent pas venir en contradiction d'analyses urinaires ou sanguines.
Alors, je vous demande d'aller voir le résultat.
Parfois des analyses capillaires qui sont utilisées, notamment. On a eu des cas de clenbutérol où là, on avait des contaminations par la viande, où les analyses capillaires ont été extrêmement utiles dans la résolution des cas.
Allez voir le résultat de.
Pas du tout la possibilité d'analyse capillaire.
Allez voir le résultat de Nicolas Chillard, judoka français, pour lequel le juge dit que l'analyse capillaire est non fiable et n'est pas accréditée. Je suis accrédité sur l'analyse capillaire exactement comme le sang et les urines. Donc allez voir le résultat du jugement de Nicolas Chillard.
Vous savez quoi ? Vous n'êtes pas forcément d'accord, évidemment, sur ces techniques, mais on va continuer d'en parler dans les grandes gueules du sport, dans cette émission spéciale dopage. Le Casineur, c'est vrai que c'est un cas d'école en termes de contamination extérieure. C'est la nouvelle défense des sportifs. On en parle dans quelques instants avec les GG, avec Olivier Rabin de l'AMA et le professeur Jean-Claude Alvarez. Restez bien avec nous, on poursuit le débat sur RMC.
Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h38 de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault. Ce matin, toujours au cœur de notre dossier spécial dopage, nos deux invités, Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et puis Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie de l'hôpital APHP, Raymond Poincaré de Garches, le professeur qui innocente les sportifs, sujet à une contamination. Vous vous êtes notamment occupé, professeur d'Igaziantec, ou encore Simona Alep. Justement, nous allons parler de cette nouvelle défense des sportifs. Je ne suis pas dopé, je suis contaminé. que nous avons évoqué le Cassineur.
Alors
que...
on n'a pas complètement évoqué parce qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire. Est-ce que pour vous, professeur Rabin, Sineur est exempté de cas de dopage? Pour vous, il n'a jamais été dopé volontairement, parce que ça, on le sait pas. Et les gens se posent des questions.
Dans ces cas-là, tu dis pas dopé en fait. C'est contaminé. C'est non, un non, autre mais, mot. Alors, est-ce qu'il a donc été très contaminé bien. C'est un autre mot en fait. Dopé, c'est tu viens chercher absolument. Une substance pour améliorer tes performances.
C'est toi qui vas la chercher.
Contaminé, bah t'as été contaminé. Quand toi tu manges des œufs pas frais, bah t'as la salmonelle et t'es contaminé.
Et contaminé veut dire aucun effet.
D'accord.
Ça c'est important.
Donc professeur Rabin.
Oui. Est-ce que vous le mettez
contaminé ou dopé?
Exactement.
Non, mais pour moi, l'angle est un peu différent. C'est-à-dire que sur la base des analyses qui ont été menées, cet athlète a été exposé à une substance interdite. Ça, c'est un fait avéré. Oui. Ensuite, la révision du cas, que ce soit sous un angle scientifique médical, ce qui relève de ma responsabilité à l'Agence mondiale antidopage, et ensuite sous un angle purement juridique, est arrivé à la conclusion que l'athlète devait être sanctionné sous les règles du Code mondial antidopage, qui a été le cas, mais maintenant la sanction a été ajustée au regard des informations scientifiques et médicales qui étaient disponibles et qui ont eu tendance à accréditer le fait qu'il ait été exposé à cette substance, au Clostebol de façon claire, par une action de son entourage.
Oui, donc, mais en fait, vous dites, vous reconnaissez qu'il a été exposé, et vous reconnaissez, ou en tout cas la sanction, c'est il doit être maître finalement de tout ce qu'il a autour de lui.
De tout ce qui rentre dans son corps.
Bah, ou en tout cas, il doit être responsable de son staff aussi. C'est dans la sanction, c'est ça que vous sanctionnez plus que le dosage qui est micro dosé en fait.
Non, mais écoutez, alors sur les dosages, on pourrait beaucoup discuter. On a quand même des substances aujourd'hui qu'on est effectivement capable d'analyser à des picogrammes par millilitre d'urine, qui sont des métabolites de stéroïdes anabolisants pour lesquels vous n'avez aucune raison d'être exposé dans la vie quotidienne. Donc faire le procès des micro-doses ou des micro-concentrations que l'on trouve dans les urines des athlètes est un faux procès. Tout dépend de la substance que l'on recherche et ce que cette substance veut dire. Si vous trouvez quelques picogrammes de benzoylgonine, qui est le métabolite principal de la cocaïne, vous ne pouvez pas forcément l'interpréter. Quand vous arrivez à des picogrammes d'une substance qui est par définition une substance dopante qui ne peut être utilisée que dans un cas de dopage, vous n'avez bien évidemment pas la même interprétation.
Dans le cas d'Alberto Contador, il y a quelques années, c'était là aussi une contamination au dopage, on ne sait pas, mais on avait trouvé des picots. Enfin, là aussi, c'était vraiment des doses infimes qu'on avait retrouvées dans les urines du grimpeur espagnol. Il avait pourtant été déchu de son titre du vainqueur du Tour de France.
Et là encore, je reviens, je connais très bien le cas Contador, puisque c'est moi qui ai fait toutes les analyses scientifiques, médicales et les calculs. Et il est très clair qu'entre l'explication qui a été donnée par l'athlète et le contexte de ces explications et les concentrations urinaires de clenbutérol qui avaient été trouvées, il y avait une déconnexion entre les explications.
Une non-cohérence, quoi.
Et ce qu'on trouvait. Et nous, c'est ce que l'on regarde. Il faut être très, très franc. L'AMA, j'aimerais quand même tordre un peu le cou à un tabou ou une perception. Le rôle de l'AMA n'est pas de façon obsessionnelle de sanctionner des athlètes. C'est absolument pas l'esprit dans lequel on travaille. L'esprit dans lequel on travaille, c'est, en ce qui me concerne, des éléments factuels. Je veux les faits, je révise les faits, comme je vous dis, quasiment tout le temps de façon complètement anonyme, c'est-à-dire qu'on me donne des éléments, notre département juridique me donne des éléments en me disant « Écoute, dis-nous si d'après toi, c'est une utilisation avérée d'une substance ou ça peut être une contamination, ça peut être autre chose. » On a quand même des moyens aujourd'hui à l'Agence mondiale antidopage de travailler avec l'industrie pharmaceutique et de pouvoir aller chercher des informations qui ne sont jamais publiées, qui sont restées dans les tiroirs de l'industrie pharmaceutique et qui nous permettent parfois aussi de faire des calculs d'excrétion sur la base d'informations qui ne sont pas forcément publiées. Et là, c'est vrai qu'on a un avantage, mais un avantage qui est mis au service aussi l'explication qui est cohérente ou non cohérente de la part d'un athlète.
Alors, je vois que tout le monde veut réagir. Jérôme Pinault et ensuite Jean-Claude Alvarez.
Moi, j'ai juste un problème avec vos derniers propos, Monsieur Rabin, c'est cette explication-là et cette prise de parole-là, M. Rabin, vous étiez certainement déjà au sein de l'AMA dans les années 2000, et c'était déjà les mêmes explications lorsque Lance Armstrong dominait le peloton. On nous expliquait qu'on avait les moyens, qu'on travaillait avec les laboratoires pharmaceutiques, qu'on pouvait tout voir, qu'on pouvait aller plus loin, que s'il y avait de la triche, on le saurait, puisque nous sommes puissants, nous avons les moyens de trouver... Et au final... On s'est tous fait enfler sur le coup, et nous les coureurs, et vous les spectateurs. Et donc, est-ce que vous comprenez que ces choses-là, ça ne passe pas auprès du grand public, et encore moins auprès de certains sportifs qui se font ultra-dominer. Est-ce que vous le comprenez ça? Moi, ce que je regrette... Attendez, je finis juste. Oui, moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que vous êtes trop silencieux. C'est trop. Il faut
pas
plus
communiquer. Dans les grandes gueules du sport.
Voilà. Mais jusque-là, c'est trop parce que... Cette sauce-là, en tout cas nous dans le cyclisme, on l'a déjà entendue.
Lance Armstrong, quand je rejoins l'Agence mondiale antidopage en octobre 2002, c'est un dossier qui m'attendait sur le bureau à l'agence.
J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2002 aussi.
D'accord. Alors, bah, écoutez...
Vous devez avoir moins de dossiers sur moi que sur lui, je pense.
Ouais, bah, je ne sais pas. Hein.
Probablement.
Je
ne
suis pas
arrivé pas. Allez-y, Olivier Rabat.
Non, si vous voulez. Ce qui était clair, c'est qu'à l'époque, en 2002, le Code mondial antidopage n'existait pas. On était en train de l'écrire. Et lorsque il était évident, on avait des éléments, et ça a été révélé par Damien Rossio dans l'équipe en août 2005, d'ailleurs de façon tout à fait évidente, il y avait des éléments déjà à l'époque qui indiquaient que Lance Armstrong s'était dopé, notamment à l'EPO. Et ce sont des éléments qu'on a partagés avec l'UCI, l'Union Cycliste Internationale à l'époque, en disant, écoutez, c'est plus qu'évident, on a des preuves, le Code mondial antidopage n'est pas encore en place, à vous d'agir, à vous de sanctionner l'athlète. Rien ne s'est passé.
Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, Monsieur Rabin ?
Alors, aujourd'hui, il y a des dates, si vous voulez, quand même, de limite dans ce que l'on peut faire. Il y a 10 ans. 10 ans nous sont donnés pour révéler des cas, remonter des informations. On l'a vu, il y a malheureusement parfois des cas où ça va au-delà. Regardez l'affaire Puerto en Espagne, qui a eu lieu en 2006. C'est quelque chose pour lequel, malheureusement, on n'a pas eu la collaboration qu'on espérait des autorités impliquées du côté espagnol et qui ne nous ont jamais permis de révéler ces cas publiquement et de les sanctionner comme ça aurait dû être le cas à l'époque sous le Code mondial antidopage. Maintenant que le Code mondial antidopage est en place, je peux vous assurer, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai rejoint l'agence il y a maintenant plus de 20 ans, c'est l'assurance que, là encore, les meilleurs éléments puissent être pris en compte en faveur ou en défaveur de l'athlète. Il y a des athlètes sur lesquels, quand vous dites on ne fait pas appel, il y a des éléments où effectivement on arrive à la conclusion que ça peut être de la contamination, j'en ai vu récemment, à nouveau, et dans ces cas-là, l'AMA décide de ne pas faire appel. Mm-hmm. Et ces cas-là existent, et c'est évident, puisque les contaminations peuvent exister, il est logique qu'elles soient prises en compte par le système.
Professeur Alvarez, ma question c'est, est-ce que vous jouez contre l'AMA et... Est-ce que vous faites du bien la lutte anti-dopage, sachant que ces cas de contamination, si on comprend bien tout le monde, bah, ce n'est pas vraiment du dopage. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, que les choses soient claires, ça a été dit tout à l'heure. Un contaminé, ce n'est pas un dopé. Que les choses soient bien claires.
À vous entendre, on a l'impression que personne ne se dope, il n'y a que des contaminés. Et que finalement, le monde sportif est victime, en quelque sorte, de l'antidopage.
Il y a plein de dopés. Il faut attraper les dopés. C'est les vrais dopés, là. Il faut les attraper. Voilà, c'est très clair. Je ne suis pas pour le dopage. Mais à partir du moment où on prouve scientifiquement, Monsieur Rabin tout à l'heure parlait de science, oui, c'est scientifique, on prouve scientifiquement que c'est de la contamination, quand par exemple dans des affaires, IGA par exemple, je fais racheter une boîte neuve à la pharmacie, je l'ouvre pas, je l'envoie au laboratoire, ils analysent, ils trouvent la même contamination que moi. Elle a rien dans les cheveux, c'est de la contamination.
Ce oui, donc pas là vous communiquez sur ce genre de cas, mais on vous sollicite aussi. Et je suppose que quand vous faites des analyses, rendez compte qu'il y en a qui ne sont pas contaminés.
Mais bien sûr, je travaille à charge.
Et qu'est-ce que vous en faites de ces non-contaminés?
Et oui, qu'est-ce que vous en faites?
Alors,
c'est non, qui ne sont pas contaminés. Non,
voilà, qui sont de.
Comment je travaille? Un sportif vient me voir, il me dit j'ai été attrapé, je suis positif, je ne suis pas d'accord, je conteste. La première chose que je vais faire, c'est une analyse de cheveux. Je regarde ce qu'il y a dans ses cheveux. Si j'ai des tonnes de produits vous dans dégagez. Ses cheveux, stop, je m'arrête d'accord. là. Je donne d'accord. les résultats à l'avocat et je lui dis écoutez, pour moi, je suis désolé, ça m'est arrivé. Hein, ça m'arrive régulièrement. Je
d'accord. dis vous pouvez désolé. Rien faire.
Non, bah, là, je m'arrête là, c'est du dopage.
Est-ce qu'aujourd'hui.
Avec... Dans ce cas-là, il faut le sanctionner, lui, lourdement.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos analyses, vos méthodes, professeur Alvarez, vous arriveriez
à innocenter un Lance Armstrong ou un Ben Johnson?
Bah là, c'est plus compliqué parce que c'est des molécules qui ne se fixent pas dans les cheveux. Je veux dire, il y a des limites aux cheveux. Bien entendu qu'il y a des limites. Je veux dire, quand on prend de l'EPO, par exemple, on ne le retrouve pas dans les cheveux. L'EPO, c'est l'idéal.
Le dopage sanguin, c'est quand même aujourd'hui, été pendant des années.
Mais c'est là où il faut s'acharner. C'est ça qu'il faut rechercher. Oui, c'est là, les dopés. Ils utilisent ça. Mais... Je veux dire, quand on a de l'ostarine, la trimétazidine, tout ça, et qu'on prouve qu'on retrouve le produit dans le supplément qu'ils ont utilisé, je veux dire, moi, Amadou Fall, j'ai racheté le même. Je l'ai acheté moi, sur Internet. Je l'ai donné à quelqu'un, un volontaire. Ce volontaire, c'était mon fils. Je peux le dire maintenant, c'est publié dans la littérature. Je l'ai donné à mon fils. Je retrouve exactement la même concentration que moi, Amadou Fall, chez mon fils, dans ses urines, 8 heures après l'absorption du produit. C'est très clair, on a fait le tour. J'en ai pas dans les cheveux, j'en ai pas dans les poils. Ça prouve bien qu'il a été contaminé une fois et ça ne lui a fait aucun effet. Ce n'est pas du dopage, c'est de la contamination. Faut s'arrêter là. Il prend 9 mois. Pourquoi? Je comprends pas, moi. Je veux dire, quand on dit qu'on s'acharne pas contre les sportifs, oui, on s'acharne contre les contaminés. Il faut s'acharner contre les dopés.
Alors, j'admire la foi du professeur Alvarez dans les analyses capillaires. J'ai un peu plus de réserve. Autant, quand vous l'avez dit, quand on trouve de fortes concentrations, oui, on peut avoir un certain nombre d'informations très utiles. Parfois, ne rien trouver ne veut pas dire du tout, et vous le savez tout aussi bien que moi, qu'il n'y a rien eu, que rien ne s'est produit. Donc, c'est là où il faut quand même raison garder et se dire, ok, les analyses urinaires sont pas parfaites, les analyses sanguines non plus, elles apportent chacune d'entre elles des informations qui peuvent être utiles dans l'explication des cas. Les analyses capillaires d'eux-mêmes, elles peuvent apporter des informations utiles, mais pas toujours. Et c'est là, et je reviens à ce que je disais précédemment, il faut prendre en compte tous ces éléments scientifiques avec le degré de certitude que l'on peut avoir ou parfois d'incertitude autour de ces éléments scientifiques et aussi les éléments contextuels. Dans un certain nombre de cas, et vous avez mentionné des noms, je ne peux pas rentrer dans les détails puisque ce sont des dossiers qui sont actifs actuellement, nous avons des éléments contextuels, d'autres calculs qui permettent de mettre en doute l'explication des athlètes. Et dans ces cas-là, notre rôle, et c'est notre rôle d'exprimer ces doutes et de voir si juridiquement des éléments peuvent être apportés afin de résoudre au mieux les cas. Ça n'est pas toujours à charge de l'athlète, c'est parfois à décharge. Et je pense qu'il faut essayer de reconnaître l'objectivité du processus et l'objectivité que tout un chacun se doit de mettre au service des athlètes. Après tout, on travaille au service des athlètes et notamment des athlètes propres. Il ne faut pas l'oublier.
Donc ça dépend du sportif. Parce que je reviens sur le cas Sinner, que je sache, aucune analyse capillaire. Donc on le croit sur parole. Il a 2 positifs au Clostebol. Alors c'est vrai que ça passe par voie transcutanée, aucun problème. Mais quelle est la preuve? Quelle preuve il a amené que c'était bien de la contamination et pas du dopage? Comment vous savez qu'il n'a pas pris plusieurs doses de Clostebol, ce cher Sinner? Comment vous le savez? Il vous l'a dit et vous l'avez cru. Alors, il y a certains, vous les croyez, et d'autres, vous les croyez pas. Parce qu'il n'y a pas eu d'analyse capillaire. Hein, je suis bien placé pour le savoir. Donc,
connaissance.
Non, il n'y en a pas eu. Bah, si on avait fait des cheveux, on aurait montré qu'il en avait probablement pas, si c'était de la contamination, ou qu'il en avait beaucoup, si c'était du dopage. Donc là, vous l'avez juste cru sur parole. Je trouve ça étonnant.
D'abord, on juge la cohérence des éléments qui sont à notre disposition. Si nécessaire, on peut parfois demander des analyses complémentaires. Vous savez tout aussi bien que moi, et ça c'est une recommandation du consensus de la Société donc internationale des analyses capillaires, que les analyses capillaires, au-delà de 3 mois, peuvent poser un problème de fiabilité. On a des limites quand même à l'analyse capillaire que l'on se doit de prendre en compte.
On connaît très bien les limites au bout de 3 mois. On les connaît.
Et vous avez pour certaines substances
aussi. Il y a de la diffusion, attendez, laissez-moi finir, il y a de la diffusion, mais on maîtrise tout à fait, même au bout de 3 mois. Mais une petite parenthèse, Simona Halep, je l'ai prélevé 1 mois après. Hein. Donc il n'y avait pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on a contesté le résultat?
Mais Olivier Rabat, peut-être répondre là-dessus sur la question de Sinner. Est-ce que parfois dans les sportifs, et ça peut arriver, avec leurs avocats, on les croit sur parole, vous voyez ce que je veux dire?
Non, ça n'est pas sur parole. Non, on ne peut pas dire sur parole.
C'est pour ça que c'est important, la précision.
Il y a des éléments sur les faits qui sont à disposition, et à un moment, il peut y avoir ou des demandes complémentaires d'analyse, ça arrive. Vous avez évoqué, professeur Alvarez, lorsqu'il y a la nécessité de tester des compléments alimentaires, ça arrive même très régulièrement dans un certain nombre de cas, ou des médicaments. Il est arrivé qu'effectivement, on retrouve des contaminations tout à fait objectives dans des médicaments et qui ont, là encore, agi en décharge de l'athlète, sont des éléments qui existent aujourd'hui. Et si aujourd'hui, à l'AMA, on travaille beaucoup sur cette question des contaminations, c'est bien parce qu'on est conscient que ce sont des phénomènes qui existent. Alors, ils n'existent pas forcément de la même ampleur. Quand vous parlez, par exemple, des promoteurs de croissance qui sont utilisés pour le bétail, c'est un vrai problème dans certains pays d'Amérique latine ou d'Asie. Ça n'est pas du tout le cas en Europe. Donc, on est aussi obligé de prendre en compte
On va ramener
disparité.
De la viande d'Amérique du Sud.
Moi, pour le coup, ça m'amène une question. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il ne faut pas que l'AMA, et je ne sais pas si c'est possible, mais soit clair, en fait, auprès du grand public, parce que vous avez bien compris que
c'est
le message qui est diffusé qui est parfois flou. Et ce n'est pas un reproche que je vous fais. C'est qu'en fait, si un athlète est sanctionné, on dit que c'est un dopé. Exemple Sinner, personne. Enfin, et vous dites non, c'est pas un dopé, c'est un contaminé. Moi, je veux bien. Mais est-ce que l'AMA ne doit pas dire, ok, il est contaminé. Lui, il est dopé. Lui, il est contaminé. Absolument. Lui, il est dopé. Vous, est-ce que vous voyez la nuance?
Oui, non, je la comprends bien. Et je comprends que ça permettrait peut-être parfois d'éclaircir les débats. Néanmoins, je pense, alors deux éléments, l'AMA n'a pas toujours pour vocation de communiquer, surtout dans des cas dans lesquels nous ne sommes pas impliqués, nous ne sommes pas partis. Donc là, il y a un aspect juridique, il faut quand même le prendre en compte, et il a été évoqué un certain nombre de cas où l'AMA n'est pas partie, donc ça n'est pas notre rôle de communiquer sur des dossiers sur lesquels nous ne sommes pas forcément impliqués.
Mais vous êtes l'Agence mondiale antidopage.
Oui, mais l'Agence mondiale antidopage a un rôle, si vous voulez, réglementaire. Notre rôle est de nous assurer que les règles sont suivies, pas forcément d'intervenir sur tous les cas.
Oui, vous n'êtes pas là pour faire de la pédagogie grand public, c'est ça, c'est pas votre rôle premier.
Pas vraiment, c'est pas le rôle qui nous est donné, c'est pas le rôle qui nous est imparti.
Oui, on est d'accord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la diffusion, enfin, avec tous les canaux de communication avec dans lesquels on vit, c'est sûr que les interprétations, elles vont vite, l'information, elle va tellement vite que on a besoin de pédagogie, en fait, vous comprenez? Et même
surtout sur des questions aussi complexes.
Mais après, même pour l'image du sportif lui-même, en fait, pour l'image.
Je comprends très bien.
Vis-à-vis de, par exemple, Sinner va revenir sur le circuit, il y en a qui lui en veulent la mort, il y en a qui disent.
Roland peut être sifflé.
Ce que je veux dire. Et alors, le cas de Simone Halep, ça a fini sa carrière. On a arrêté sa carrière avant l'heure. Mais donc, vous comprenez qu'il y a un moment, on a besoin de comprendre parce que sinon, effectivement, on dit des choses qui sont fausses et les choses qui sont fausses entraînent des rumeurs et les rumeurs entraînent une forme de sentiment d'injustice et ainsi de suite.
Bah, écoutez, vous avez des responsabilités de différentes organisations impliquées dans ce que j'appellerais le système antidopage. Souvent, les informations sont disponibles. Lorsqu'il y a des cas qui sont au tribunal arbitral du sport, l'AMA est en partie ou pas, le tribunal arbitral du sport communique les décisions qui sont prises. Donc là, il y a quand même un certain nombre d'éléments. Après, il faut prendre le temps de les lire, il faut prendre le temps de comprendre le langage juridique et éventuellement scientifique et médical.
Mais ça, le grand public ne peut pas le faire.
Non, mais ça, je peux comprendre, effectivement. Maintenant, il y a quand même un élément que j'aimerais apporter à votre attention, qui est un élément de prudence de notre côté, quand vous dites, il faut dire c'est un athlète contaminé ou un athlète dopé. On a quand même des cas d'athlètes qui ont été pris pour des soi-disant dossiers de contamination qui se sont révélés positifs plus tard. Donc prendre une position de la part de l'AMA d'un jugement de dire non, ça c'est un athlète contaminé ou un athlète dopé ne serait pas forcément une position qui serait tenable dans le temps. On a eu des cas, comme je vous l'ai dit, et c'est tout à fait objectif, d'athlètes qui ont été pris et pour lesquels on a amené le dossier devant le tribunal arbitral du sport où au final la contamination a été retenue, bon gré, mal gré, à notre avis, et au final l'athlète a été pris pour dopage plus tard, et j'ai plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. Donc effectivement, il faut que nous on soit extrêmement prudents aussi sur les analyses qui sont faites.
Alors vous savez quoi, c'est passionnant, on va continuer évidemment la discussion avec Olivier Rabin de l'AMA, avec le professeur Alvarez qui s'occupe de certains sportifs et qui tente de prouver leur contamination, ce qui n'est pas toujours le cas parce que parfois, évidemment, vous l'avez rappelé, ce sont des sportifs dopés, donc vous vous occupez de ces cas-là. Bref, on continue d'en parler avec les grandes gueules du sport, Christophe Sessieux, Jérôme Pinault et Sarah Pitkowski. À tout de suite sur RMC.
Vous écoutez RMC.
Et nous parlons dopage depuis 10h ce matin avec Olivier Rabin, le directeur de la médecine de l'AMA, et le professeur Jean-Claude Alvarez. Un rendez-vous à vous donner tout de même à 11h30. Liège, Bastogne-Liège, la dernière classique de Pogacar cette saison et en ce printemps. On en parle aujourd'hui. Quand vous voyez ses performances, est-ce que vous êtes inquiet pour le suspense sur le Tour de France? Mais GG, puis 11h45, on s'en fout pas. Toute l'actualité de ce week-end avec notamment du judo, de la moto et le tournoi des six nations féminins des Français. En grande forme, nous allons en parler. Mais le dernier volet tout de suite de notre dossier dopage, la lutte est-elle vraiment efficace? Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie de l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Gare. Je le rappelle, l'homme qui innocente certains athlètes, notamment Iga Swiatek, Simona Halep ou encore Isaora Tibusu.
Est-ce que dans vos carrières respectives, à tous les deux, vous êtes de grands professeurs en toxicologie, vous avez déjà rencontré des sportifs qui sont venus vous dire « Moi, je me suis dopé ». Et est-ce que ça arrive que des athlètes disent qu'ils ont fauté, qu'ils ont triché? Vous, professeur Alvarez, non. Vous en avez déjà rencontré?
Non, moi non.
Ça n'existe pas.
Moi, ils viennent me voir quand ils veulent prouver qu'ils ne sont pas dopés. Donc non, je les vois pas cela. Par contre, mes analyses parfois prouvent qu'ils sont dopés. Quand je fais de l'analyse capillaire et que j'ai des concentrations élevées dans les cheveux, pour moi, il y a pas de doute. L'autre jour, j'ai eu 75 picots d'ostarine dans les cheveux. Il y a pas de doute. Pour moi, c'est du dopage, voilà. Donc, je m'arrête là. Il faut bien comprendre.
Mais vous renvoyez pas le dossier vers l'AMA quand même, vous êtes pas
dénateur. Non, je renvoie le dossier à l'avocat, il en fait ce qu'il veut. Je suis pas sûr qu'il utilise mes résultats, pour vous dire la vérité. Voilà, mais ça, c'est son problème. Donc voilà. Mais bien entendu que j'ai des cas de positifs dopés, et là, je m'arrête là. Je suis pas contre le dopage. Et à la limite, ces gens-là, il faut les attraper.
La lutte anti-dopage est-elle vraiment efficace? C'est justement notre question, la question qu'on a tous envie de se poser. Jérôme Pinault.
Oui, moi je vais m'adresser à Monsieur Rabin une nouvelle fois et lui poser la question, parce que on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui on parle de contamination de toutes petites doses très infimes de certains produits, de microdoses de certains produits présents. En revanche, on sait qu'il y a un vrai souci avec un sujet. C'est l'autotransfusion, la transfusion sanguine, qui est le dopage du riche, le dopage organisé, le dopage du grand. Je viens d'un sport où on le sait, cette méthode a été utilisée.
On est très suspicieux.
Dans beaucoup de domaines.
La tenniswoman. Fais-toi petite en ce moment, on parle mal de vous. Quand même. Et donc aujourd'hui, le doute, la suspicion est permanente sur les exploits de Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, etc., etc. On sait aussi que parfois, sur certaines vieilles analyses, on peut retrouver des toutes petites infime dose de clambutérol, par exemple, mais il y a une grosse suspicion de dopage sanguin. Où en est-on, monsieur Rabin, dans la recherche pour enfin pouvoir prouver et suspendre un athlète qui aurait fait appel à ces méthodes qui sont des méthodes, on peut le dire, de voyous? Il faut que l'on puisse savoir, nous les passionnés, où en est-on sur ce genre de méthodes et quelles sont où en sont les recherches sur les méthodes contre les transfusions sanguines.
Permettez-moi de reprendre la question à la base. Peut-être vous expliquer aussi une chose qui me paraît relativement importante, et je pense que ça valide dans le sens qui devrait vous rassurer également. Si la charge de la preuve et la certitude que l'on peut avoir lorsqu'on parle de dopage. Souvent, et c'est pas le professeur Alvarez qui me dira le contraire, la science au quotidien fonctionne avec, faisons simple, une marge d'erreur de 5% à peu près, voire de 1% dans les cas les plus poussés. C'est-à-dire qu'on se laisse 5% ou dans les meilleurs des cas 1% de marge d'erreur. Ce qui, en antidopage, ne s'applique pas, puisque nous, on travaille à une marge d'erreur de 0,01%. Ça veut dire qu'on veut un degré de certitude de 1 sur 10 000 versus 1 sur 20 de se tromper. Donc, on est immédiatement dans un système qui nous met sur les épaules, qui met sur mes épaules et celles de mes collaborateurs et de tous les gens qui travaillent dans l'antidopage, une charge, si vous voulez, scientifique qui est extrême, puisqu'on doit être capable, et c'est ce que nous demande souvent le système antidopage et les juristes qui travaillent dans le système antidopage, d'avoir un niveau de certitude extrêmement élevé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des méthodes, pour venir à votre question sur les autotransfusions sanguines, est un véritable défi pour nous. Pourquoi? Parce que d'abord, vous prenez le sang d'un individu que vous stockez de façon temporaire ou plus longue avec différentes méthodes, que vous réinjectez. C'est-à-dire qu'il faut qu'on détermine, qu'on distingue entre les cellules d'un individu et ses propres cellules. Donc en soi, c'est un défi. On a trouvé des méthodes, mais qui n'ont pas atteint le degré de certitude qui était nécessaire pour les appliquer en antidopage, ou qui parfois nous donnaient des fenêtres de détection trop courtes. Ce qu'on a mis en place dans un premier temps, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le passeport biologique de l'athlète, qui est une méthode indirecte qui peut révéler des retraits sanguins ou des administrations sanguines avec des volumes sanguins qui sont encore relativement importants. On ne parle pas de microtransfusion, on parle plutôt de transfusion d'unités de sang, c'est-à-dire 450 ml de sang ou un peu moins. Maintenant, on a investi énormément, et on n'est pas les seuls, il y a d'autres organisations aussi qui l'ont fait, dans les méthodes de détection. Et aujourd'hui, on a des méthodes extrêmement poussées qui vont chercher la cellule sanguine qui pourrait nous révéler qu'il y a eu transfusion sanguine. Donc on est sur des méthodes extrêmement pointues, et ce que l'on cherche à voir aujourd'hui, c'est si ces méthodes vont nous donner le degré de certitude suffisant pour pouvoir les amener dans le contexte antidopage.
Professeur Rabin, le sport le plus montré du doigt, on l'a bien compris, reste le cyclisme en matière de dopage. Pas une victoire de Pogacar ou l'un des fantastiques sans qu'il soit montré du doigt. Relevé de Watts à l'appui, tous ceux qui veulent montrer qu'il est coupable nous montrent ça. Est-ce que les puissance considérable produite par les coureurs vous inquiète, ou vous pensez que cela est normal qu'un Pogacar éclate la concurrence dans la montée du mur de Huy comme il l'a fait cette semaine? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce genre de choses, et est-ce que vous avez des méthodes justement pour essayer de nous rassurer de ce côté-là?
Alors, la science progresse au quotidien et on intègre très régulièrement des nouvelles méthodes. On a même parfois des méthodes de détection de certaines substances qui ne sont pas encore disponibles pour des athlètes ou commercialement disponibles. Donc ça aussi, c'est le travail que l'on fait notamment avec l'industrie pharmaceutique. Ensuite, je pense qu'il faut voir différentes choses. La première, c'est... Oui, il y a des performances qui peuvent parfois poser question. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a derrière ces performances. Aussi, la préparation des athlètes, l'entraînement, l'alimentation. On parle beaucoup de l'utilisation des corps cétoniques, notamment dans le cyclisme, vous le savez très bien. Il y a tout un ensemble aujourd'hui. Et puis, il y a des substances qui sur lesquelles on travaille beaucoup. Ce sont notamment ce qu'on appelle les agonistes des récepteurs GLP-1, style sémaglutide, l'Ozempic que l'on connaît, et ses petits frères et ses petites sœurs, sur lesquels on travaille beaucoup sur les effets. On a travaillé aussi beaucoup sur le tramadol. Souvenez-vous, le tramadol a été une substance. On a réussi à démontrer au travers...
Enfin, Monsieur Rabin, on ne gagne pas un Tour de France avec le tramadol.
Non.
Enfin,
mais ça peut aider quand même, semble-t-il. On a démontré que le tramadol, je vous réfère à la littérature scientifique, peut augmenter la performance.
Non, mais bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a perdu beaucoup de temps sur les corps cétoniques et le tramadol, et que ça pouvait être, pour certains, un leurre pour continuer à faire du petit bricolage à côté? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je ne pense pas qu'on ait perdu de temps. Je pense que toutes ces questions se posent. La question m'a été posée à l'AMA sur les corps cétoniques, et j'ai toujours une position très claire. Ce ne sont pas des substances qui sont considérées interdites par l'Agence mondiale antidopage. Elles ne sont pas sur la liste. Le tramadol, un certain nombre de questions se sont posées sur le tramadol aussi. On a mené des recherches pour montrer que le tramadol pouvait avoir un effet d'augmentation de la performance et donc interdit à ce titre. Et on travaille sur nombre de substances.
Le monoxyde de carbone aussi, qui a été récemment montré du doigt.
Monoxyde de carbone, effectivement, qui est interdit dans le cyclisme, mais pour lequel l'AMA a réfléchi et va probablement sortir sur la nouvelle liste un élément spécifique lié au monoxyde de carbone ou dans son utilisation.
Encore quelques questions avec Olivier Rabin, le laisser. Juste Olivier Rabin avec nous, directeur sciences et médecine de l'AMA. Moi, juste pour poursuivre sur Tadej Pogacar, est-ce que quand on est l'AMA, et là c'est une question de néophyte total, est-ce que quand on voit les performances de Pogacar ou d'un autre cycliste,
est-ce qu'on envoie des inspecteurs régulièrement?
Est-ce qu'il y a des loupiottes, vous voyez, qui s'allume, quoi, qui dit attention, là on a quelque chose, un peu comme en 2002, vous nous expliquez le cas Armstrong, vous êtes arrivé et puis vous aviez déjà un dossier.
Alors écoutez, différents éléments. D'abord, oui, les performances exceptionnelles attirent toujours l'attention. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a dopage derrière des performances exceptionnelles. On en a dans différents sports et on ne lève pas forcément les sourcils à chaque fois qu'il y a des performances un peu exceptionnelles. Bien évidemment, ces éléments sont pris en compte à la fois par les gens qui sont responsables des tests antidopage dans le cyclisme, nommément l'ITA, qui a une unité et des gens qui sont spécialisés dans le cyclisme et qui ciblent les athlètes, donc les cyclistes à différents niveaux. Il y a aussi un autre élément qu'il faut garder à l'esprit. Je sais que c'est pas forcément le plus agréable, mais il a été parfois extrêmement utile. Et je prendrai comme référence les Jeux Olympiques de Londres, où on a la possibilité de garder des échantillons pendant 10 ans et de faire des analyses rétrospectives. Et une fois qu'on a des méthodes en place, et je mets ce commentaire en parallèle de ce que je disais précédemment, où on a des méthodes aujourd'hui qui sont assez avancées, mais pas encore suffisamment validées pour les appliquer. Mais dans les années qui viennent, on peut très bien utiliser ces méthodes sur des échantillons qui sont stockés. Le cyclisme,
c'est vrai,
notamment des sports qui stockent les échantillons.
Mais les coureurs qui se battent contre Tadej Pogacar ou un autre, ça va leur faire une belle jambe dans 10 ans de savoir que ils étaient finalement, ils auraient pu être premiers.
Je te confirme.
Un dernier mot, professeur, concernant le dopage génétique. Là aussi, on se demande si c'est du domaine du fantasme ou est-ce que vraiment des professeurs foldingues sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous avez eu vent de ce genre de choses et est-ce que demain on aura des mutants qui exerceront dans le sport. On parle notamment de ces jeux, vous savez, les Unsaid Games que veut promouvoir la famille Trump, où on laisserait faire n'importe quoi à n'importe quel athlète, il n'y aurait aucun contrôle. Donc votre avis à la fois sur le dopage génétique et sur ces jeux un peu particuliers qui risquent d'arriver.
Exactement,
bientôt.
La position de la masse sur ces jeux des dopés, comme on les appelle.
Ben, la réponse était dans votre question, c'est-à-dire est-ce qu'on veut voir des monstres demain concourir à des... sur des jeux quels qu'ils soient. Moi, j'ai l'impression qu'on revient aux jeux du cirque, c'est-à-dire que tout est permis, des jeux du cirque romain, tout est permis pour le divertissement. Or, c'est pas ma philosophie du sport, non plus. Pour revenir au dopage génétique, oui, ça fait 20 ans maintenant qu'on a identifié ce risque. Alors, j'aimerais qu'on se limite au professeur Folding, mais malheureusement, la réalité de ce monde est un peu différente. Vous avez des gens qui se prétendent, experts dans le domaine et qui, dans leur garage, et j'en ai vu dans leur garage ou dans leur cuisine, vous concoctent avec des adénovirus et des séquences génétiques et les injectent un peu à n'importe qui, pas seulement des animaux, ils le font sur des animaux, mais aussi sur des humains. Donc aujourd'hui, le dopage génétique est probablement une menace plus réelle qu'elle ne l'a jamais été. Et on a identifié des produits qui peuvent être inquiétants. On a développé des méthodes qui aujourd'hui sont en place en partie dans les laboratoires antidopage et continue d'être mise en place. Et je pars tout à l'heure pour Londres pour discuter justement de certaines de ces nouvelles méthodes d'analyse génétique que l'on pourrait impliquer et mettre en œuvre dans l'antidopage. Bon, oui. Donc oui, la science avance et le dopage génétique est une menace réelle. J'ai tendance à penser que les bonnes vieilles méthodes d'utiliser des médicaments ou des injections reste encore de mise, mais le dopage génétique est une réalité, en tout cas en devenir.
Si je peux te donner mon avis, je pense qu'il faut vraiment que l'AMA travaille là-dessus. Aujourd'hui, on fait de la thérapie génique à l'hôpital, donc on sait modifier un gène, et on sait très bien qu'en modifiant certains gènes, on va améliorer les performances. Et c'est votre gène, donc vous modifiez vos gènes. Donc, bien entendu, je pense qu'il faut vraiment... C'est là où l'AMA doit travailler scientifiquement et passer beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour essayer d'être avant ces Moi, je suis persuadé que c'est déjà en train de... Il y en a, comme vous dites, dans leur garage qui sont en train de le faire. Peut-être sur de la souris, mais peut-être pas que sur de la souris.
Absolument. Mais juste pour répondre de façon complète à votre question sur les Enhanced Games, l'AMA condamne fermement ce type de pratique, non seulement parce que, et je reviens, on sait déjà ce que pourraient des Enhanced Games. On l'a vu lorsque des programmes comme les programmes en ex-Allemagne de l'Est dopaient de façon quasiment systématique un certain nombre d'athlètes au Turin d'Abel. On voit ce que ça donne et on voit ce que ça a donné. Moi, je suis désolé, mais quand on essaie de nous vendre ces Enhanced Games en disant « Non, mais vous inquiétez pas, on va contrôler la santé des athlètes, expliquez-moi comment on peut contrôler la santé d'athlètes qui se dopent avec tout un ensemble de substances, y compris des stéroïdes anabolisants, dont on connaît les effets que des années, voire quelques décennies plus tard. C'est absolument impossible, c'est un leurre. » Donc la position de l'AMA a toujours été très ferme, on condamne absolument ce type d'approche. C'est un retour en arrière, c'est un risque pour la santé des athlètes, ce sera un concours de scientifiques et de pharmacologues ou de dopeurs génétiques, ni plus ni moins.
C'est le chômage technique pour l'AMA.
Négation.
Eh bien, c'est une règle.
Ça, peu importe.
Moi, vous seriez sur la paille, professeur Alvarez.
Je fais du judiciaire et on a des décès avec des stéroïdes anabolisants.
En tout cas, c'était très clair et vous avez raison de condamner fermement, en tout cas de le dire sur RMC ce matin dans les grandes gueules du sport et de nous avoir consacré comme ça un peu plus d'une heure. Merci beaucoup, Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, d'être venu vous exprimer. Mais parler comme ça dans les grandes gueules du sport et de nous avoir consacré du temps. À très bientôt sur RMC.
Il faut le faire plus souvent, professeur. Vous voyez, là, vous vous exprimez devant tout le monde et je suis sûr que les gens vont comprendre un peu mieux ce qu'est la lutte antidopage.
On espère.
Avec plaisir, n'hésitez pas à m'inviter.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup Olivier Rabin. On va poursuivre la discussion avec le professeur Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie de l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garches. On rappelle évidemment que vous avez réussi à innocenter notamment Hugues Gazianteck, même si elle a été suspendue un mois par l'AMA. Cette question qui tourne depuis plus d'une heure de cette discussion, est-ce qu'on traque les vrais tricheurs?
Pas forcément. La preuve, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, le dopage s'est concentré sur tout ce qui tourne autour de l'oxygénation. Le PO, les transfusions, voilà. Pour moi, les vrais dopés, ils sont là-dessus. Ce qui se...
Mais on a quand même fait des progrès même... là-dessus, non? Le PO aujourd'hui est détectable. Mais les transfusions sanguines, ça a l'air plus compliqué, hein, le professeur disait.
C'est détectable, c'est pas si détectable que ça.
D'accord, les microdoses, on n'arrive pas à les détecter.
Ouais, déjà, c'est difficile, les microdoses. Ouais. Dans les urines, ça marche pas très très bien. Dans le sang, ça marche bien, le PO, mais dans les urines, ça marche pas très bien. Donc, c'est pas si détectable que ça, malgré tout.
Moi, j'avais une question pour vous, monsieur Alvarez, et je vais mettre un peu les pieds dans le plat.
Il faut.
Est-ce que, selon vous, un coureur ou un athlète qui va se préparer en altitude, garde son sang de côté et qu'il se le réinjecte sans produit extérieur, est-ce que c'est du dopage, oui ou non?
Ah bah, s'il se fait un prélèvement de sang et qu'il se le réinjecte, oui, c'est du dopage. Par contre, s'il va en altitude, moi, je suis en train de défendre des sportifs.
Et les chambres hypoxiques et tout ça.
Absolument. Oui. S'il va en altitude, je veux dire, avant, tous les sportifs partaient faire leur stage à Font-Romeu, hein, et ça choquait personne.
Colette Besson, la première, qui a été championne olympique en 68.
Exactement. Non, mais là, je mets pas un point sur le stage en altitude. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il en va.
Mais est-ce qu'ils vont là-bas?
Oui. Est-ce qu'ils vont là-bas pour ça? Et est-ce que c'est vraiment, on se réinjecte son propre sang? Pour le commun des mortels, c'est pas si évident que ça de comprendre qu'on puisse punir un garçon qui s'enlève son sang et qui se réinjecte. C'est très compliqué, hein.
Pour moi, ça, c'est du dopage, hein. C'est de la méthode.
Ah bah, pour moi aussi,
c'est de la méthode de dopage. Donc, à partir du moment où vous faites ça, vous êtes dopé. Par contre, si vous montez en altitude ou en chambre hypoxique pour favoriser de manière endogène la sécrétion de votre PO, il faut bien comprendre que quand vous êtes en altitude, vous êtes en hypoxie. Vous n'avez pas assez d'oxygène. Et donc, l'organisme va réagir en sécrétant de l'EPO endogène pour pouvoir pallier ce manque d'oxygénation. C'est pas du dopage, ça. C'est, dans ce cas-là, la psychologie, c'est du dopage.
La frontière est quand même...
Mais ça reste quand même naturel. C'est-à-dire qu'on stimule
Christophe, y a juste une
naturellement
question,
sa propre sécrétion de PO.
Là, le détail, et là, vous pouvez me le confirmer, vous qui en connaissez bien plus que moi sur ce sujet, c'est qu'en fait, sur les effets de l'entraînement d'altitude, il n'est pas aussi long qu'on pourrait l'espérer lorsqu'on fait, par exemple, une course de 3 semaines. C'est-à-dire que quand on rentre d'altitude, au bout de 3 semaines, les effets sont moins là. En revanche, celui qui prend, quand il est à son pic de sécrétion, son sang, et qui se le réinjecte tout au long de la course par microdose, là, l'effet dure très longtemps.
Ah oui, mais ça, c'est du dopage, je suis désolé.
Voilà. Vous avez vu comme les coureurs cyclistes sont au fait quand même des
la recherche et des produits professeurs.
Il n'y a pas que les coureurs cyclistes. Je te rappelle qu'il y a un numéro 1 mondial de tennis qui a été pris pour une microdose de je ne sais pas quoi.
C'est pas de la transfusion.
Le tennis, on est contaminé, le vélo, on est dopé. Bien sûr. Continuons.
Jean-Claude Alvarez, quand on a entendu Olivier Rabin, on a senti évidemment que vous n'étiez pas en phase et que vous n'étiez pas d'accord sur toutes les techniques. Pourquoi vous ne travaillez pas avec eux? Et ce ne serait pas plus simple, en fait, de déterminer qui est contaminé?
D'allier toutes les bonnes volontés.
Vous voyez,
mais si vous voulez, j'ai aucun
problème. Votre but, c'est quand même d'innocenter les clients, les contaminés, et eux, c'est quand même de prouver qu'ils sont coupables ou non.
Moi,
quoi.
Si vous voulez, moi, j'ai rien contre le lama. Ce qui me choque, c'est parfois l'acharnement qu'ils mettent à montrer qu'un contaminé est dopé. Ça, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Ouais. Quand on montre scientifiquement que c'est de la contamination, Simona Halep, c'est vraiment un exemple.
Discrédite complètement.
18 mois de procédure, 18 mois pour finalement aboutir à une sanction de 9 mois, parce qu'ils ont reconnu que j'avais raison, c'était bien de la contamination. Ils n'ont toujours pas accepté la contamination, toujours pas.
Mais pour eux, la contamination, si on écoute bien, ça veut dire, oui, mais vous avez été négligent.
Oui, attendez, Hugues Gazianteck, elle a acheté ses comprimés, sa mélatonine en pharmacie. C'est de la négligence, ça?
Oui, mais
dans ce cas-là,
le terme négligence rentre dans leurs critères de sanction.
Mais oui, pas de faute, pas de négligence. Mais c'est de l'interprétation.
Je rappelle que vous êtes allé racheter justement cette boîte de médicaments de Gaziantep et que vous avez retrouvé le même taux qui lui avait été reproché.
Mais ça, je l'ai fait pour Mohamed Oufal, je l'ai fait pour Simona Halep. Simona Halep, 5 boîtes j'ai rachetées. J'en ai ouvert 4, j'ai trouvé dans les 4, j'ai envoyé la 5e au laboratoire de Lama, ils n'ont pas trouvé. Mais je suis pour rien, moi, s'ils ne trouvent pas de
banque. Vous allez vous ruiner en médicaments,
c'était
professeur.
Pas la bonne boîte,
justement, la question, on parlait tout à l'heure du deux poids, deux mesures et surtout de la différence entre les sportifs riches et les sportifs smicards. Combien ça coûte aujourd'hui à un sportif qui vient vers vous et qui vous dit, voilà, professeur, j'ai été contaminé, je veux que vous le prouviez, combien ça va lui coûter?
C'est difficile à répondre parce que ça va dépendre de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire que du cheveu? Est-ce qu'on va faire des suppléments? Est-ce qu'on va faire IGA, par exemple, elle m'a amené tout ce qu'elle prenait comme médicaments, comme ces crèmes de beauté.
C'est un travail de longue haleine.
Mais bien sûr, IGA, ça m'a pris des semaines pour arriver à trouver son comprimé contaminé, qui avait été testé dans un autre laboratoire, qui n'avait pas trouvé. Hein. Donc vous voyez, on va chercher de l'infiniment petit, parce que c'est de la contamination, ça ne fait rien. Ça rend juste les urines positives avec des concentrations très très faibles.
Du picogramme. J'ai l'impression que vous avez esquivé la question quand même.
Combien ça lui a coûté, IGA Swiatek?
Oh, je ne sais plus, je pourrais pas vous dire comme ça.
Vous savez.
Non, je ne sais plus.
Mais si
vous
voulez, mais un ordre d'idée.
Est-ce que c'est en dizaines ou en centaines?
Non, en dizaines. Non. C'est les avocats qui coûtent cher, plus que
les médecins.
Ouais, c'est les avocats qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que nous. Et vous savez, moi, il y a des fois des sportifs, c'est là leur fédération qui paye la dialyse. Ça arrive. Mais
moi, j'ai un exemple.
Pour Isaïe Tibus, par exemple.
Par exemple, ça peut arriver. Absolument. C'est la fédération qui considère que voilà, il faut défendre le sportif qui. Parce qu'ils considèrent que on est bien sur de la contamination, on n'est pas sur du dopage.
Ok, le mot de la fin, Jérôme.
Non, mais sur le côté argent, on a l'exemple, moi j'ai l'exemple concret de Franck Bonamour que je soutiens depuis son affaire. Franck a été obligé d'arrêter sa carrière parce que dans sa défense, il s'est endetté, il n'avait plus les moyens de payer les scientifiques pour prouver son innocence.
Et les avocats.
Finalement, la plus grosse des sanctions, c'est que sa carrière est terminée. Alors que, avec plus de moyens, nous en sommes tous persuadés, et même un laboratoire, mais qui était dépendant financièrement de l'AMA, a arrêté les recherches parce que Franck n'avait plus les moyens d'aller plus loin et il fallait en rajouter encore. Donc c'est bien un signe que lorsqu'on est puissant et riche, c'est quand même plus facile de se défendre.
Je vais vous dire, moi je suis universitaire, donc il m'arrive de faire vraiment des analyses qui me coûtent très cher. Mais je ne les facture pas au prix que
non,
ça.
On s'est rencontré trop tard, monsieur Alvarez.
Je vous aurais emmené
Franck Bonamour et je suis
absolument
sûr que
vous parliez du cas de Nicolas Achillard, judoka français, qui lui aussi a été cloué au pilori pour un cas de contamination.
Absolument. On est sur 14 picogrammes par millilitre dans ses urines. C'est le plus faible taux que j'ai jamais vu d'ostarine dans des urines. 14 picogrammes. Il n'a rien dans ses poils. Il n'a rien dans ses cheveux. Il n'a rien dans ses ongles. C'est de la contamination. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de s'acharner contre les sportifs qui sont contaminés et pas dopés.
Voilà. Jean-Claude Alvarez, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission.
Passionnant.
Gueule du sport spécial dopage.
Merci beaucoup.